Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons sur Radio Bassivière pour une émission spéciale. Nous sommes un groupe de 4 étudiants venus de Limoges et d'Ahun en Creuse, en première année de Master Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial. Je m'appelle Lucie Lachassane, je suis accompagnée de mes camarades Emeline Moulinier, Thomas Ranger et Amadou Boiré. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de notre projet collectif étudiant. Celui-ci a pour thème la vielle et les vielleux en Creuse. Mais avez-vous déjà entendu cet instrument? Pas encore? Alors laissez-vous transporter par ce dernier au son si particulier.
D'entendre la valse de la Mayenne jouée par Éric Roulet, membre de l'école du Mont-Gargan. L'aventure commence début décembre par notre rencontre avec Chris Egalé, chargé de la direction stratégique et politique du CRMTL. Mais qu'est-ce que le CRMTL, Thomas ?
Le CRMTL est le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin. C'est une association qui a pour but de faire connaître et de valoriser les traditions et les cultures du Limousin via les musiques traditionnelles. Par exemple, il collecte des enregistrements audio ou sonores afin de conserver une partie de la mémoire collective limousine.
C'est donc avec l'aide de Chris Egalé que notre projet a pu commencer. Notre projet, il a pour but de collecter des informations sur les vielleux afin de créer une carte interactive qui localise les personnes jouant de la vielle en Creuse. Cette carte, elle sera accessible à tous. Pour obtenir le plus d'informations possibles sur les vielleux, nous devions également retrouver les descendants de ces musiciens.
Il faut préciser que nous ne connaissons pas ou très peu la vielle. Nous venons d'horizons divers et la vielle, c'est un instrument traditionnel moins connu que l'accordéon ou le violon par exemple. C'est grâce à Chris Egalé qu'on a pu découvrir cet instrument.
Effectivement, c'est en présentant le projet que Chris Egalé nous a joué un morceau et raconté son histoire avec l'instrument et l'histoire de l'instrument et nous a donné des repères sur la musique traditionnelle. C'est aussi lui qui nous a fourni une base de données de noms de personnes ayant acheté ou fait réparer une vielle entre les années 1850 et 1900 dans des manufactures à Janzat dans l'Allier, le haut lieu de la fabrication et de la réparation des vielles.
Ces bases de données nous ont permis de créer des arbres généalogiques afin de retrouver, si possible, des descendants actuels. Nous avons dû aller sur les archives numériques de la Creuse pour trouver des actes de naissance, de mariage, de décès ou encore des matricules de soldats. On était de vrais généalogistes.
Mais on s'est mis également dans la peau de vrais enquêteurs et on était à la recherche d'un trésor. Ce trésor, il est constitué de descendants, mais aussi des vielles que nous pourrions retrouver au fil de nos recherches. Nous voulions aussi retrouver des photos, des cartes postales, en bref, des documents très importants pour notre projet et qui pouvaient aussi compléter le projet du CRMTL.
En définitive, ce projet a été pour nous un apprentissage, car on a tous appris quelque chose durant le long de ces projets. Et je vous avoue, la généalogie, c'est un sujet que je ne connaissais pas.
Pareil pour moi.
Emeline et Lucie étaient les seules à avoir des connaissances. Je pense parler au nom de tout le monde pour vous dire que ce projet était long et épuisant, mais extrêmement enrichissant.
On passe le bonjour à tous les généalogistes d'ailleurs. Et après la généalogie, nous voulions acquérir un peu plus de connaissances sur l'instrument et sur son histoire, mais aussi sur le rapport qu'entretiennent les personnes qui jouent de la vielle avec leur instrument. Nous avons donc contacté beaucoup de monde.
C'est exact. Des associations, des professeurs, des luthiers, des passionnés de la vielle, des amateurs, bref, beaucoup de gens. Tout d'abord, nous voulions connaître la vielle. Comment est-elle construite? Quels sont les éléments qui la composent? Avec quoi on la fabrique? Grâce aux entretiens réalisés, nous avons appris que la vielle est composée de nombreux éléments comme le chien ou le bourdon.
C'est difficile pour nous de vous décrire avec précision l'instrument, puisqu'il faudrait en avoir une sous les yeux pour véritablement voir comment il est fait. Mais nous pouvons vous dire qu'il est constitué d'une manivelle et de touches comme sur un piano. C'est avec Sylvia Chassard, vice-présidente de France Folklore et Vielleuse, qu'on en a appris plus sur celle-ci. Les personnes interrogées nous ont renseigné sur l'histoire de l'instrument, n'est-ce pas Emeline ?
Oui, et la vielle, elle est utilisée depuis très longtemps. C'est encore une fois Sylvia Chassard qui nous a éclairé au mieux sur cette histoire. Au Moyen-Âge, l'instrument était tellement grand qu'il fallait deux personnes pour le porter. Il était surtout utilisé par les troubadours. Il est tombé ensuite dans l'oubli où il a été très peu utilisé et la vielle ne réapparaît qu'à la cour de Louis XV. Ce sont les jeunes aristocrates, les jeunes femmes qui en jouaient. Et nous allons maintenant vous passer un extrait d'un morceau pour mieux vous immerger dans l'univers de la vielle à cette époque. Vous venez d'entendre le Rigaudon de Joseph Baudin de Boismortier, interprété par Mireille Lachaise et Nicole Bayle de l'école du Barbichet. Au XIXe siècle, l'instrument est surtout utilisé dans les fêtes de famille, de village ou dans d'autres événements comme les mariages ou les baptêmes. Avec nos recherches, nous pouvons dire que l'instrument a eu une période prospère jusqu'au milieu du XXe siècle.
Il est vrai que la vielle a perdu de son engouement dans les années 60-70. Nous avons parlé à notre entourage de celle-ci et la plupart d'entre eux ne connaissaient pas l'instrument. Cependant, plusieurs associations, plusieurs groupes de musique traditionnelle ou folklorique existent, en Creuse et en Limousin, et permettent de ne pas oublier cet instrument. Nous avons passé un appel à témoins sur les réseaux sociaux et beaucoup de ses membres ont répondu.
Nous remercions Frédéric Clouseau, vice-président de France Folklore et vice-président de l'école Montgargan, qui nous a permis de nous mettre en contact avec de nombreuses personnes qui jouent de la vielle et font vivre l'instrument déjà pratique. Ce sont celles-ci qui nous ont permis de comprendre que, malgré les engouements plus faibles pour la vielle, les membres des associations mettent tout en place pour la faire vivre. Il y a même une dimension militante à la pratique de la vielle et à la pratique de la musique traditionnelle en général.
Oui, certaines personnes nous l'ont dit durant nos entretiens. Une personne nous a dit qu'elle était, je cite, « active et passionnée », et qu'elle était une militante de la transmission de la tradition. Une autre, que le travail de la transmission était très important.
Nous remercions Éric Roulet, Sylvia Chassard, Mireille Lachaise, Nelly Bousseli, Nicole Bayle, Nathalie Segal et sa maman, ainsi que Roland Nicou, président de l'association des maçons de la Creuse. Après une interlude musicale, on se retrouve pour la suite de nos aventures en Creuse à la découverte de la vielle.
On se retrouve après avoir écouté un extrait musical du collectif de l'école du Mont-Gargan pour la suite de notre émission sur notre projet étudiant « Vielles et vielleux en Creuse ». Durant nos recherches, et ne connaissant pas la Creuse, nous avons voulu parcourir ce département. Nos recherches se sont concentrées sur les cantons d'Aubusson et de Feltin. Un autre groupe d'étudiants, travaillant sur le même sujet, a effectué des recherches sur les cantons d'Ahun et de Gouzon. Nous avons donc réalisé un mini road trip dans le sud de la Creuse avec la ferme intention de découvrir les paysages et le patrimoine du département.
Mais pas seulement. Nous avions un autre objectif, celui de retrouver les maisons, les rues, les quartiers ou encore les bourgs de nos vielleux. On voulait s'imprégner de leur lieu de vie et savoir comment ces derniers ont évolué.
D'ailleurs, on n'était pas seuls. La neige et le verglas nous ont accompagnés.
Oui, malheureusement. Merci à ma voiture d'avoir tenu le choc. Enfin, avec cette excursion, nous avons quand même découvert que la Creuse avait un patrimoine très important.
En effet, beaucoup connaissent la tapisserie d'Aubusson et de Feltin, qui est d'ailleurs connue comme un patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais la Creuse regorge de merveilles. Le département est doté d'un petit patrimoine. On peut citer plusieurs églises comme l'église Saint-Martial, Saint-Pardoux, Saint-Domingue, Saint-Quentin. La liste est longue. Et aussi, on peut retrouver des lavoirs, des châteaux, comme celui d'Aubusson.
Je ne suis pas très passionnée par les églises. Je préfère les promenades en plein air. Dites-moi, il y a bien des sentiers de randonnée?
Bien sûr! Les amoureux de la nature vont adorer la Creuse. Pour ceux qui aiment les forêts, il faut venir à la forêt domaniale de la Feuillade à Faux-la-Montagne. Vous pouvez aussi faire le sentier d'interprétation de Feltin sur l'artiste Pierre Redon. Ou encore, venir vous balader sur les gorges, dans les gorges pardon, de la Roseille à Moutier-Roseille, qui est inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.
Ces paysages ruraux nous ont permis de voir où vivaient les vielleux des factures qui nous ont été remises par le CRMTL. Nous avons pu voir à quel point les endroits qu'ils habitaient étaient tous différents les uns des autres. Ce que l'on observe particulièrement, c'est qu'il y a une certaine concentration des vielleux dans le canton d'Aubusson, notamment à Aubusson, Champagnat, Bellegarde-en-Marche, Saint-Sylvain-de-Bellegarde, Lupersa. La concentration de vielleux est moindre dans le canton de Feltin. Dans les communes que nous avons citées, il y en a beaucoup plus.
Oui, c'est vrai que lorsque l'on regarde les résultats de notre étude, nous voyons une disparité entre les localisations des joueurs de vielle. Après cette étude sur les localisations des vielleux en Creuse, nous avons également pu dresser certains portraits des musiciens.
Oui, c'est vrai que nous avons pu trouver des similitudes entre les vielleux. Il y a notamment pour nous une corrélation entre la pratique de la vielle et les mentions de la Creuse. Mais avant de vous raconter cela, nous allons faire une petite pause en écoutant un nouveau morceau de la vielle.
On se retrouve après avoir écouté un autre extrait du collectif de l'école du Mont-Gargan. Nous reprenons notre enquête. Nous allons maintenant découvrir en quelque sorte les portraits de nos vielleux. Après avoir commencé notre projet, Rhys Egalé nous a demandé de voir s'il y avait des similitudes entre les vielleux de notre base de données.
En effet, nous nous sommes posé des questions sur les personnes inscrites sur la base de données fournie par le CRMTL. Nombreux ont eu la même profession, c'est-à-dire celle du maçon. Nous nous sommes donc posé la question. Y a-t-il un lien entre les métiers du maçon et la vielle ? Avons-nous des réponses, Lucie ?
Eh bien, avant toute chose, nous avons pris contact avec l'association des maçons de la Creuse et avons eu un entretien avec Roland Nicou, le président de l'association. Cet entretien s'est avéré très utile. Monsieur Nicou nous a parlé de son travail et des recherches qui y sont effectuées au sein de l'association. Celle-ci travaille sur les migrations des maçons creusois dans les grandes villes, comme à Paris et à Lyon. Mais pas seulement. Ces maçons sont partis partout dans la France et même à l'étranger, dans les anciennes colonies françaises. Ces migrations commencent dès le XIIe siècle, mais les sources deviennent réellement abondantes au XVe siècle et perdurent jusqu'au XXe siècle. Ces voyages étaient très durs physiquement et psychologiquement.
En effet, ils devaient subir la distance avec leur famille, leurs femmes et leurs enfants. De plus, le danger était toujours présent. Ils ne savaient jamais sur quoi ils pouvaient tomber et les chantiers pouvaient être très dangereux. Ils partaient en novembre et revenaient vers mars. Donc les hivers pouvaient être très rigoureux. La fatigue était présente. Selon certaines archives, les maçons travaillaient plus de 200 heures par mois.
Je rajoute qu'ils n'avaient qu'une demi-journée de repos. Donc que faisaient-ils pour se reposer ? Ils allaient faire la fête, tout simplement. Les bals étaient très appréciés et à partir des années 1850-1880, on constate que les hommes amenaient parfois leurs femmes avec eux et on voit donc une évolution des migrations. Au départ, elles étaient temporaires et elles deviennent pour beaucoup définitives. Dans les années 1880, on voit un domaine grandir, celui des bistrots et des auberges. Beaucoup des femmes qui accompagnaient leurs maris sont devenues concierges, couturières ou bien gérantes de café. C'est dans ces endroits que les maçons se retrouvent pour se vider l'esprit. Et on voit une utilisation de la vielle dans ces moments, puisque c'est un instrument qu'ils amenaient parfois avec eux, qui est originaire donc de la Creuse, de leur pays. Et on peut également souligner que la période où ils partaient était propice au mariage, donc un événement en plus pour faire la fête et pour jouer de la vielle.
En définitive, on constate un léger lien entre les maçons et la vielle et les vielleux. Cela n'est pas mis en évidence. Ronald Lecou, que nous remercions une fois de plus, nous a également expliqué que les liens n'étaient pas évidents. Mais on peut quand même dire que c'est un instrument très utilisé durant les fêtes, dans les moments de repos et les mariages, etc. La vielle s'est certainement répandue à travers la France grâce à ses vielleux qui l'amenaient parfois avec eux.
Sur nos 65 vielleux, 12 sont des maçons. Les autres effectuent d'autres professions comme tapissier ou tulier. Il y a des profils assez distincts. Certains sont membres de la même famille, on a trouvé des liens de parenté entre certains de nos vielleux. On voit que la vielle se transmet parfois de génération en génération.
Oui, c'est vrai. Et pour un vielleux dont j'ai retrouvé les descendants, mort dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a certainement eu une transmission de la passion pour la musique. Un des potentiels descendants jouait de l'accordéon, un instrument traditionnel. Et je trouve ça vraiment incroyable que la passion de la musique perdure de génération en génération et transgresse les modes et les normes.
Les descendants des vielleux sont présents partout en France, c'est très compliqué de les retrouver. Lorsqu'on les retrouve, souvent cette mémoire familiale est éteinte. On a parfois la chance de retrouver des descendants de nos vielleux, mais parfois il y a peu de souvenirs, car en général, les descendants qui pourraient se souvenir sont décédés. Certains ont migré vers les grandes villes comme Paris, et donc, avec l'exode rural, il y a aussi eu la perte des souvenirs. Cependant, beaucoup de personnes aiment partager leur histoire familiale, quand ils la connaissent, et c'est toujours passionnant de les écouter. Après ce moment d'histoire et d'analyse, nous arrivons à la fin de notre émission. Notre projet nous a été très bénéfique dans le sens où nous avons rencontré beaucoup de monde, des membres d'associations, des descendants de vielleux, des membres des mairies, des professeurs. De plus, nous avons appris à connaître un instrument, un patrimoine culturel et immatériel que nous ne connaissions pas. On espère que grâce à nos appels à témoins, à nos recherches et à notre émission, tout en collaborant avec le CRMTL, nous avons pu mettre en avant ce patrimoine qui est la vielle. Découvrir la vielle a été enrichissant, n'est-ce pas ?
Vraiment enrichissant, oui.
C'était très enrichissant, oui. Et je connaissais pas du tout la vielle. J'étais même très éloignée de la musique traditionnelle. J'avais, comme beaucoup de monde, beaucoup de clichés en tête. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus ouverte à ce type de musique. Ce projet m'a apporté beaucoup de rencontres très sympathiques. Et j'ai appris vraiment plein de choses.
Pour ma part, j'ai bercé dans ce monde étant petite, mais je l'ai perdu en grandissant. Et je suis contente de l'avoir retrouvé avec ce projet. Et il ne faut pas oublier que c'est une tradition qui ne doit pas se perdre. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes viennent s'inscrire au conservatoire pour jouer de la vielle ou autre instrument traditionnel.
On tient à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à avancer sur notre projet, nos recherches. On remercie nos professeurs Frédéric Serre, Edwige Garnier et Jean-Luc Mélou. Un immense merci à Riz Segalé, notre commanditaire, pour ce projet et son aide si précieuse. Grâce à ce projet, nous avons pu enregistrer cette émission sur Radio Vassivière. On remercie Maxime Tribois et les équipes de la radio. C'était une expérience sur les ondes enrichissantes et qui était inconnue pour certains d'entre nous. On se quitte avec un morceau de musique traditionnelle. On espère que cette émission vous a plu et vous a appris plein de choses. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.